30 ans. Puis depuis qu'on utilise des produits chimiques, depuis l'après-guerre, on a tué les sols et maintenant, entre 25 et 30 ans, il faut arracher les vignes.
Alors le LAMS, on l'a créé en, on va dire en 1990, quand on est sorti de l'INRA, puisque on travaillait avant à l'INRA dans les années fin 90, je veux dire, l'agriculture biologique, tout ce qu'on n'arrête pas de parler, on a été extrêmement combattus. Je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme. Donc moi, j'étais au-dessus, on va dire, et plus particulièrement, je travaillais sur le problème des huiles, l'huile de colza, les problèmes liés aux acides gras dans les huiles. Et Claude était en
microbiologie des sols, voilà. On était chacun aux deux bouts de la chaîne alimentaire, quoi. Moi au niveau du sol et Lydia au niveau de la qualité des aliments.
Bon, on s'est rencontrés là-bas, hein, puisque on a fondé notre famille. Et c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte que bah, déjà en se promenant, la nature, on parlait des pluies acides, de certaines choses. Et on s'est dit, non, il faut sortir de là. Quoi. On a un autre discours à tenir. Et là, on s'est dit, il faut partir. Quoi, parce que d'abord, pas de liberté de parole. L'INRA devenait beaucoup moins libre. On commençait à travailler avec des contrats de ces multinationales, de ces firmes, où en fait, on nous demandait de voir, bon, ben, quel problème d'une huile ou problème de vitamines. Et à la limite, la publication, elle appartenait à la firme. Elle appartenait plus, on publiait s'ils voulaient. Et là, on s'est dit non, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de liberté. Donc, on fait le grand pas. Mais ça a été dur, hein. C'était fonctionnarisé tous les deux, vous savez. Oui, on était fonctionnaires tous les deux. Mais il y a quand même des changements. Ils commencent à dire qu'effectivement, un sol, il faut qu'il soit vivant. Ils parlent des colamboles, des acarniens, alors qu'ils nous ont combattus pendant des années.
Oui, c'était dur. Parce que c'était pas évident que les électeurs s'intéressent à la vie de leur sol. Et ils étaient dans un modèle où on leur disait que le sol, c'était un support, on balance les engrais chimiques, les pesticides, tout va très bien. Et nous, on leur disait, faites attention, c'est un milieu vivant, vous êtes en train... Bon, la population de vers de terre est totalement effondrée en Europe, faites attention, il y a vos sols, il y a un moment, ça ira plus. Ils le voient d'ailleurs, avec toutes les inondations, les sols ne boivent plus l'eau parce qu'il n'y a plus de faune, il n'y a plus rien. Les inondations partout, mais les gens nous prenaient pour des martiens à l'époque. Donc c'était très dur d'avoir des analyses, parce que nous, on vit des analyses qu'on fait pour les agriculteurs, où on regarde l'état de dégradation de leur sol et on leur préconise ensuite des itinéraires pour remettre leur sol debout. Faire convaincre un agriculteur de nous faire travailler, de nous faire analyser ses sols, c'était pas évident. Ça a été dur. Et ça reste toujours dur.
Vous savez, nous, on va avec des agriculteurs qui n'ont jamais... Ils sont dans leur tracteur, ils n'ont jamais vu leur sol. C'est-à-dire que quand on fait un trou, ils sont là, ils disent « Ah, mais c'est pas vrai que c'est comme ça. Mais j'ai des racines qui descendent comme ça. Ah, mais mon sol, il a cette couleur-là. » On leur dit « Mais attendez, c'est votre outil de travail, quoi. Votre tracteur, vous connaissez tout le moindre boulon et votre sol, vous ne le connaissez pas ? » Ben non, ils ne le connaissent pas.
C'est quand même extraordinaire de se dire que l'humanité laisse empoisonner le milieu qui le nourrit, quoi.
Nous, ce qui nous choque, c'est par exemple la nouvelle agriculture intensive mais écologique. Ben là, il y a...
C'est un oxymore. L'agriculture écologiquement intensive, c'est un oxymore manipulé par ces grandes industries pour noyer le poisson. Ils essayent de tout verdir, même les OGM, ils essayent de vous faire croire que les OGM, c'est très écologique. Nous, on travaille en Argentine depuis longtemps, avec des agriculteurs qui, au départ, n'utilisaient pas d'OGM. C'est des gens conventionnels, hein, pas des gens qui étaient en bio. C'est des gens qui consommaient 2 à 3 litres de glyphosate hectare. Depuis qu'ils sont en OGM, ils sont à 12 litres de glyphosate. Et comme ça suffit pas, c'est des plantes résistantes, ils rajoutent 4 litres d'atrazine, produit maintenant totalement interdit à cause de sa toxicité en Europe. Et Monsanto, depuis qu'ils ont sorti les OGM, ils sont passés d'une vente de 5 millions de tonnes de glyphosate dans le monde à 30 millions de tonnes, c'est-à-dire 6 kilos par habitant et par an. Faut quand même arrêter, quoi.
Comme les nuages, comme l'air, comme la pluie, comme le soleil, Roundup de Monsanto est un élément primordial pour l'agriculture. Roundup de Monsanto, très proche de la nature.
C'est grave, c'est très grave quand les chercheurs, comme nos amis Claude et Lydia Bourguignon, sont dépendants des grandes industries pour leur recherche. Quand les grandes boîtes financent la recherche, les chercheurs ne sont plus indépendants. Et voilà, donc on ne peut plus compter sur rien. Ils ne servent plus à rien. Au contraire, ils sont contre nous. Il faut absolument que ces gens-là, qui sont des travailleurs intellectuels, absolument indispensables, soient absolument indépendants et que les budgets de la recherche soient absolument neutres, nationaux, qu'on s'arrange pour trouver une solution qu'on avait déjà, d'ailleurs. Je pense au CNRS et je pense à toutes ces... C'est des domaines sur lesquels on ne va pas tellement et on a tort parce que c'est très, 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 très important.